Je remercie Patricia de m'avoir invitée. C'est l'occasion de reprendre un texte que j'ai pas réécrit hein, pour l'occasion. Vous m'en voudrez pas. C'est un texte que j'avais fait pour l'Université pour tous, donc il n'y avait pas tout à fait le même public, un peu moins universitaire. J'aime bien parler d'orthographe sous l'angle. Bah, disons que l'objet orthographe, d'abord, c'est mon domaine de spécialité depuis un moment. Depuis ma première thèse, où on m'avait, depuis ma maîtrise même, où j'avais en maîtrise, hein, j'avais été voir un professeur de sociolinguistique en lui disant c'est quoi une maîtrise en sociolinguistique, et il m'avait dit bah par exemple c'est ce corpus, et il m'avait mis 1000 copies, 800 copies dans les mains, et j'ai commencé avec ça, et je suis restée sur l'orthographe. Je pensais que j'y resterais pas, et puis j'y suis restée. À chaque fois je me disais bon, quand j'aurai fini avec ce corpus, je ferai autre chose que de l'orthographe, parce que la linguistique est vaste. Et ce n'est pas forcément l'orthographe qui doit. Voilà, c'est qu'un petit bout de toute la linguistique. J'y reviendrai peut-être un peu. Ce n'est même pas le bout le plus, on va dire, le plus mis en avant. C'est un peu marginalisé au sein des études en linguistique. Et puis, en fait, j'y suis restée pour des hasards qui m'ont fait que j'ai récupéré le cours de mon excellente collègue Renée Onveau, voilà, donc qui était spécialiste de l'orthographe. Donc, je me suis retrouvée. Du coup, je me suis retrouvée avec des mémoires. Et puis donc j'ai continué, j'ai fait. Et finalement, ce que j'aime bien dans cet objet-là, à la fois pour la partie enseignement et pour la partie recherche, c'est qu'on a vraiment un objet très social et très linguistique à la fois. Alors quand on est sociolinguiste, on se dit que finalement, ce serait dommage de le laisser tomber. Et puis le secteur est vide, hein, il n'y avait pas forcément grand monde pour reprendre le flambeau sur les questions d'orthographe. Et donc, c'est aussi une très bonne introduction à la sociolinguistique. C'est à la fois un objet qui m'intéresse en lui-même, mais aussi de ce qu'il nous permet de dire de la langue, de ce qu'est la langue pour une communauté sociale, linguistique. Donc, c'est dans mes cours, j'ai aussi donné le cours d'orthographe pour introduire une approche de la langue un peu autre que peuvent faire mes collègues. En tout cas, on a un bel objet. Donc, c'est un peu ce que je vais défendre. Je vais sans doute dire un peu des généralités, mais. C'est pas très grave, c'est l'aube. Et puis, pour une conférence, je préfère attaquer d'emblée sur une question. Donc, si on la réformait, ça permet à ce que chacun se positionne, oui, non. Ça, tout de suite, on a des idées, ça permet d'engager quelque chose de plus dialogique plutôt que qu'est-ce que l'orthographe. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là et que ça permet aussi de faire un fil sur ce sujet. Alors, je vais commencer. Bon, moi, j'ai un plan que je suivrai, que j'essaierai de suivre, mais je suis du genre à digresser, donc je peux ne pas le suivre à la lettre, je vais quand même essayer de le suivre. Et donc je commencerai par dire que l'orthographe, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est un objet linguistique un peu marginal pour la linguistique, et c'est un objet assez central du point de vue des objets de la langue qui sont médiatisés. L'orthographe est surreprésentée dans les objets de la langue qui sont médiatisés, et dans les sciences du langage, il est un peu sous-représenté. Je parle en rapport avec, donc on a une sorte de paradoxe d'être à la fois très présent dans les médias et relativement peu présent dans les sciences du langage. Alors pourquoi c'est un objet marginal? On se rappelle cet anaphorisme qui est souvent apprêté à Hugo, l'orthographe est la science des sots. En réalité, on ne l'a pas vraiment trouvé sous sa plume. C'est plutôt sous la plume de Stendhal qu'on a quelque chose de plus proche, qui est le français et l'orthographe, divinité des sots. Donc c'est plutôt Stendhal. Ceci dit, ça reste, on peut garder Hugo en tête, parce que ça reste très cohérent avec les positions qu'avait Hugo par rapport à la langue. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par l'orthographe et la science des sots? Ben, peut-être qu'il n'y a que les idiots qui s'y intéressent vraiment, ceux qui ne voient dans la langue que l'orthographe, c'est comme le sage montre la lune, idiot, l'imbécile ne voit que le doigt. Si on ne regarde que l'orthographe d'une langue, ben on a un peu passé à côté de l'essentiel de la langue. L'orthographe, c'est quelque chose qu'on peut mettre ultérieurement. D'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, ce n'étaient pas les auteurs qui étaient spécialistes d'orthographe. Les écrivains, ils écrivaient, ils faisaient des belles phrases, des belles formules, ils faisaient de la poésie. Et puis derrière, il y avait des scribouillards dans les maisons d'édition pour mettre l'orthographe comme on met un vêtement. On habille bien, qu'on nettoie avant de le rendre public. Mais on n'allait pas, c'était pas ça qu'on attendait d'un écrivain, que de savoir parfaitement les exceptions et l'orthographe idéale. C'était pas à ça qu'on jugeait un bon écrivain. L'auteur n'avait pas à se soucier des questions d'orthographe. C'était vraiment une tâche de seconde main. C'était pas une tâche de première main. Deuxième, peut-être. Façon d'entendre que l'orthographe est la science des sots, il n'y a que les idiots les défenseurs de l'orthographe sont les idiots, sont des idiots peut-être. un véritable écrivain se nourrit de l'usage, de la langue la plus vivante possible. Donc le conservatisme ou le purisme ne font pas très bon ménage avec la créativité d'un écrivain, d'où sans doute le fait que ces propos viennent d'écrivains qui se sentent peut-être bridés dès lors qu'on les ramène à de l'orthographe, puisque ce n'est pas là le cœur de leur création. Hugo, lui, il écrit « La langue française n'est point fixée, ne se fixera pas. Une langue ne se fixe pas. Toute époque a ses propres idées. Il faut qu'elle ait les mots propres à ses idées. » Donc c'est cette idée pour un écrivain fixé, normé, c'est vraiment tuer toute créativité. L'orthographe, c'est aussi, en sciences du langage, secondaire parmi les phénomènes de langue, depuis Saussure au moins, où on donne la priorité à l'oral. Pour Saussure, toute langue est avant tout orale. Une langue qui ne serait plus orale serait une langue morte. Donc une langue qui aurait une orthographe, mais pas de pratique orale, c'est pas une langue, c'est plus une langue. L'orthographe, il vient presque au dernier moment. C'est peut-être le dernier niveau de la mise à l'écrit, parce que même avant, dans l'écrit, l'orthographe, c'est encore la fin. Il faut d'abord qu'on ait des belles phrases, qu'elles soient construites, qu'on ait de la cohérence, qu'on fasse du texte, et puis il y a l'orthographe. C'est pas par ça qu'on peut juger que le texte est bon. Il est présentable peut-être, mais ce n'est pas ça qui fait qu'il est compréhensible en tant qu'ensemble d'énoncé. On fait aussi la priorité aux usages. Quand on parle d'orthographe, on a souvent tendance à surreprésenter la liste de règles qu'il faut respecter. Donc on n'est pas vraiment dans les usages, on est dans des prescriptions. Donc c'est aussi ce qui fait que c'est marginalisé en sciences du langage. On ne va pas s'intéresser à une liste de prescriptions, mais on va s'intéresser aux usages de la langue. Et puis, on met la priorité à un français qui est courant, qui est standard, quand pendant très longtemps, alors ça a changé récemment, on y reviendra, l'écrit est vraiment très limité à de l'écrit imprimé, nettoyé, légitimé par des éditeurs, dans un processus économique, enfin éditorial. Donc, ce n'est pas de la langue courante, standard de tous les jours. On est dans un tout petit bout de ce que peut être la langue. Hein. Si on réduisait une langue à simplement ce qui était publié, en tout cas jusqu'à l'avènement du numérique, hein. Mais ce qui était publié à l'écrit, on a vraiment une portion congrue de la langue, donc on peut pas. C'était aussi pour ça que c'était pas un objet central. Donc c'est associé à des prescriptions, c'est aussi associé à l'école, c'est associé au livre imprimé, et puis c'est l'objet du purisme, c'est le secteur privilégié des académiciens, qui est une espèce à part, hein, l'académicien, dans l'ordre des spécialistes de la langue. Un club très fermé, ce sont ni des chercheurs ni des linguistes, ils siègent en qualité de gens de lettres, qui est une catégorie à part. Ils sont loin des universités et des chercheurs, et donc il y a aussi cette marginalisation par rapport à cet objet qui est accaparé par l'Académie depuis 1635. Donc par ailleurs, le purisme et les discours conservateurs sont forts, ce qui fait que là encore, on a du mal à en parler de façon dépassionnée. C'est difficile d'évaluer les faits sans vraiment les juger, sans toujours être amené à « mais quand même, c'est une faute, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait écrire ». Donc ça fait que ça donne pas forcément envie d'y travailler en tant qu'objet linguistique. Certains auteurs ont parlé même de rapport sacré à l'orthographe, qu'on n'était pas loin du religieux. Quand il s'agissait de parler d'orthographe, on était plus dans ce registre-là que dans le registre de la rationalisation, en tout cas, sur l'orthographe. Donc c'est aussi un objet chargé de représentation sociale, de passion, de crispation. Si on reprend les grands motifs mis en avant par... Alors c'est l'Aïr parlant d'illettrisme, mais en fait ça marche aussi pour l'orthographe. Ça soulève un certain nombre de jugements. On connaît, on y reviendra peut-être, mais... que d'abord l'orthographe est pensée sous l'angle de la déviance, de l'écart, de la faute, du problème. Quand on parle orthographe tout de suite, c'est « ah, l'orthographe, c'est un problème », c'est difficile de dire « ah, note », enfin voilà, c'est problème. Et puis les jugements sont souvent de quatre ordres au moins. Il y a des jugements esthétiques qui sont portés sur l'orthographe. Hein. Si j'écris « oignon », on va dire « ah, c'est moche ». « Ah non, c'est pas beau ». Non, d'accord, mais là, je vois bien que c'est écrit « oignon », mais c'est moche. Sachant que c'est une graphie recommandée depuis 1990, de oignon, pour ceux qui ne le savent pas. Si je vois « il a mangé », enfin, ça c'est pas moche, c'est un problème cognitif. Il ne connaît pas bien, là, il n'a rien compris à la langue. On a un défaut cognitif quand on voit ce genre de choses. On a aussi des jugements sociaux. Peut-être il n'a pas été beaucoup à l'école, celui qui écrit, il a mangé comme ça. Il ne doit pas être, il doit pas avoir fréquenté, il ne doit pas venir d'un milieu très érudit. Il ne peut pas être fils de professeur de philosophie ou lui-même professeur de philosophie, ce n'est pas possible. On a donc des jugements sociaux, des jugements moraux qui arrivent aussi rapidement. Ça manque, ça marque quelqu'un qui écrit un texte avec des erreurs. Des variants, des erreurs d'orthographe, on dit quand même c'est de la paresse, il pourrait faire un effort, c'est de la déviance, il ne respecte pas, il n'est pas très respectueux, il manque presque de politesse quand on met des fautes partout. Donc on a des jugements moraux, le terme de faute, hein, il est connu, on ne dit pas faute de mathématiques, on dit erreur de calcul, on ne dit pas faute en mathématiques, on ne dit pas, même en langue, on dit parle bien, il parle pas bien, mais on ne dira pas il a fait une faute, hein. C'est vraiment très, très spécifique à l'orthographe. L'autre champ dans lequel on parle de faute, c'est le sport. Mais alors, dans le sport, c'est vraiment l'infraction à la règle. Et puis, il y a cette dimension blâme, hein. Le carton rouge, ça sanctionne une faute. Et il y a une dimension blâme dans la faute, hein. Donc, on retrouve ce côté un peu moral de la faute dans le sport. Je ne vois pas trop dans les disciplines scolaires ou autour de ça où on parlerait de faute comme ça. Bon, dans l'enseignement de l'orthographe, on préfère maintenant évidemment celui d'erreur pour signaler que c'est une étape, que c'est un processus en cours, qu'il n'est pas fini. Mais même en ayant remplacé avec le mot erreur, on n'a pas complètement éliminé la dimension morale. On a juste parfois remplacé faute par erreur, mais derrière, on met exactement la même chose que de ce qu'on mettait derrière faute. C'est un peu du politiquement correct parfois. Et puis nous-mêmes, hein, face à certaines erreurs, certaines variantes, je n'ai pas envie de dire erreur, je parle à certaines variantes, on a du mal à réfréner des impressions, des jugements. Et c'est ce qui est intéressant aussi, parce que je pense que c'est là aussi qu'on trouve ce que c'est que l'orthographe pour nous. C'est à partir du moment où on ne peut pas rester, oh bah oui, il a écrit pharmacie avec un F. Qu'est-ce que ça veut dire pharmacie avec un F? Ça veut dire quoi pharmacie avec un F? On se dit quoi? Il se dit peut-être ça doit être un Turc. Parce que sinon je ne vois pas, c'est peut-être un étranger qui écrirait pharmacie avec un F. S'il a écrit merci avec une CDI, alors ça c'est courant dans les mails, du merci un peu appuyé, un peu plus fort, quand dans une position hiérarchique où quelqu'un essaye de dire un merci, qui n'est pas complètement sûr, il est un peu en insécurité, ben il va mettre une CDI, c'est un merci un peu plus appuyé, un peu plus soutenu. Et puis il y a le oui. Celui-là, on se dit, ça, c'est le SMS de jeune. C'est plutôt un jeune qui écrit, ouais, SMS de jeune. Donc, quand on voit des formes, on active très vite. Alors, moi, je dis celle-là, peut-être vous en avez d'autres d'interprétations. En tout cas, on active du sens, on active des interprétations. Donc, ça veut dire que c'est quand même un objet sur lequel on a des choses à dire tous individuellement. Et puis, sur ces questions d'esthétique, on n'est quand même pas très logique avec nous-mêmes. Parce qu'on dit oignon sans i, ah non, c'est moche, mais alors théâtre sans h, c'est moche, mais cinéma avec un t à la fin, on dit pas. Enfin, je veux dire, l'esthétique, il est quand même assez arbitraire aussi. Pourquoi oignon? Je veux dire, quelle différence entre un oignon et une tomate dans notre imaginaire? Je veux dire, c'est pas l'oignon, il n'a pas un truc. Le i de oignon, il ne représente pas quelque chose de particulier, mais on y est attaché. D'ailleurs, il fait partie des recommandations, mais il est très très peu. Appliqué comme ça, hein, si vous allez dans n'importe quel magasin, tout le monde a le droit d'écrire oignon, mais celui-là, ça fait partie des formes qui, a priori, vont pas passer dans l'usage. Non pas parce qu'il a été motivé par une raison, rationnellement, c'est logique d'écrire oignon, c'est le seul mot pour lequel on a un O qui s'écrit bois. Donc, vu qu'il n'y en a qu'un, bon, on pourrait l'enlever, peut-être ce serait pas mal, il n'y en a qu'un. Mais c'est pourtant là-dessus qu'on va résister, parce que non, notre oignon avec un i, celui-là, il passera sans doute pas dans l'usage. C'est bien le signe qu'on ne peut pas simplement le penser en termes de rationalisation, mais qu'il faut prendre en compte ces représentations, ces effets, ce que ça dit. Et notre théâtre, ben moi je me dis que si tous ceux qui veulent faire du théâtre populaire, que rendre le théâtre accessible à tout le monde, peut-être qu'ils devraient commencer par enlever le H et l'accent circonflexe, ça le rendrait peut-être un peu plus banal, enfin plus accessible. Et notre cinéma, ceux qui veulent en faire un grand art, très, 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 un peu prétentieux, peut-être qu'il faudrait qu'ils imaginent de ces lettres. Donc il y a quand même cette idée qu'avec la forme du mot, on dit quelque chose sur la réalité sociale, sur le sens qu'on lui prête. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que je n'ai jamais compris comment on pouvait justifier le rhododendron et la tulipe. Mais bon, peut-être, voilà, le rhododendron, bon, en tout cas, il y aurait des choses à faire, il me semble encore, sur ces représentations qui sont suscitées par les graphies et qui font qu'on y est attaché à la graphie parce qu'elle va avec le mot, une fois que dans notre communauté sociale. Donc tous ces jugements sont assez partagés, ils sont assez forts. La question, donc, et puis si je reviens au jugement esthétique, donc esthétique, on a vu que c'était quand même un peu arbitraire. Cognitifs, socio-moraux. Alors là, il y a aucune étude qui fait de lien entre. On peut avoir des grands scientifiques, je parle en particulier en sciences dures, là, des grands génies qui peuvent avoir une orthographe épouvantable. On dit souvent que les médecins, quand ils écrivaient en calligraphie, enfin, en manuscrit, ils avaient une écriture très très difficile à lire, mais que c'était aussi une façon de ne pas voir s'il y avait des erreurs d'orthographe ou non. Donc c'était pas gênant, parce qu'on n'allait pas regarder le nombre de R et le nombre de M, parce qu'il y avait une espèce de pâté qui faisait que on avait compris que le médicament c'était ça, et personne ne se disait, ah, il ne doit pas maîtriser l'orthographe, c'est un médecin. Il y avait pas de. Donc les questions de cognitif, les questions sociales évidemment sont très arbitraires. Et les questions morales, alors là, on a des criminels qui doivent maîtriser l'orthographe parfaitement, alors qu'ils peuvent être des gens assez sordides par ailleurs. On peut avoir donc des gens de très bonne, des gens de, voilà, de bonne moralité qui peuvent faire des erreurs d'orthographe. Donc là-dessus, c'est vraiment très arbitraire. Donc tout ça amène à une première option pour le linguiste, hein, qui est de se demander quels sont ces jugements suscités par l'orthographe, qu'est-ce que les gens pensent, quelle représentation. On peut en mesurer la force, on peut en mesurer le partage. La cohésion d'une communauté, elle se fait au moins autant, nous dit la sociolinguistique, hein, dans ce que nous disons de commun que dans ce que nous évaluons de la même façon dans ce que nous disons dans ce que nous disons. Hein, dans ce qu'on part. Le consensus, il est très fort dans la façon avec laquelle on réagit aux mêmes formes et pas forcément dans la façon avec laquelle on les emploie. Donc là aussi, recueillir ces jugements nous permet de mesurer l'évolution de l'orthographe, c'est aussi mesurer l'évolution des jugements portés sur l'orthographe et de ses évaluations sociales. Moi, je parle parfois d'épaisseur culturelle attachée aux graphies qui sans doute évolue avec le temps et de mesurer ça. Donc si on regarde ces représentations, on peut aussi s'attacher à ces jugements, à les poser, à les décrire, à les analyser sur ces jugements sur l'orthographe. Il y a plusieurs travaux qui ont été menés sur ce plan. Alors il y a des travaux d'ordre sociologique, hein, qui disent que les plus attachés à l'orthographe, c'est souvent ceux qui ont intérêt socialement. C'est-à-dire que plus on tient notre position sociale de la maîtrise de l'orthographe, et plus on est attaché à ce que cette maîtrise de l'orthographe continue à justifier la hiérarchie sociale, puisque c'est ce qui nous a permis d'être dans les positions sociales qu'on occupe. Si on commence, c'est pour ça que souvent c'est Bourdieu, hein, qui disait que si les enseignants ont du mal à adhérer à une réforme de l'orthographe, c'est qu'ils sont devenus enseignants grâce, entre autres, à leur maîtrise de l'orthographe par rapport à d'autres. Donc si on commence à leur dire finalement on la réforme, c'est comme les priver de la légitimité à être dans leur position d'enseignant. Donc c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte dans la réforme de l'orthographe. Et puis il y a des études de ce type-là où on a demandé, donc l'enquête Rowe, ça date de 2012, c'est une enquête où on essayait de mesurer justement chez les enseignants leur disposition à voir l'orthographe évoluer. Le postulat, hein, ça a été à l'initiative d'une collègue belge, hein, qui s'appelle Marie-Louise Moreau, et qui avait comme postulat que si on veut réformer l'orthographe, il faut déjà se demander si les enseignants sont prêts à l'appliquer, quelle est la disposition des enseignants à une réforme de l'orthographe, parce que si on arrivait à la réformer, mais qu'à la fin, ils ne l'appliquent pas, bon, on aura travaillé pour rien. Et donc, on a fait une enquête, on était plusieurs chercheurs de plein d'universités, et on a enquêté auprès d'enseignants pour leur demander ce qu'ils pensaient, alors quelles étaient les difficultés. Bon, on a posé plein de questions. Là, la question que je reprends ici, c'est pour savoir quelle représentation, quelle idée vous faites de l'orthographe. La question, c'est si vous deviez qualifier l'orthographe française, quels sont les trois premiers mots qui vous viendraient à l'esprit? Parmi, chinoiserie, challenge, passionnant, barbant, intéressant, utile, inutile. Donc, chez les enseignants, c'est pas tout à fait ça qu'on a entendu en priorité, mais vous serez pas étonnés. Qu'est-ce qu'on entend ? On entend tout ça, donc 4913 propositions, parce qu'il y avait trois mots à donner, on les a pas hiérarchisés, on s'est pas dit que s'il avait mis un avant l'autre, on lui donnait plus de points, hein. On les a toutes notées. On a noté, alors, si on prend on va dire les cinq premiers, qui recouvrent quand même la plupart des réponses, hein. On a quelque chose qui est plutôt dans le sens de non-réforme, on va dire. C'est difficile. Alors oui, difficile, on pourrait se dire peut-être, ça laisse entendre qu'on pourrait la réformer, mais juste après, c'est intéressante ou amusante. Donc c'est toujours un difficile mais intéressant, ou intéressant mais difficile. Donc on n'est pas dans le difficile, donc, à abandonner. On est vraiment dans quelque chose qui est donc un espèce de paradoxe qui n'est pas très étonnant. Difficile mais intéressant, ou intéressant mais difficile, je ne sais pas. Utile vient aussi beaucoup. Alors après, on parle des vertus, là, esthétiques, culturelles, tous les bénéfices qu'on peut trouver. Et puis la dimension défi et challenge qui est assez présente aussi. Mais quand même, on voit point. Alors ça, c'est ce que dit la masse, effectivement, quand les enquêtes et les médias sont les premiers à relayer, quand on regarde la majorité, la majorité des discours produits spontanément dans ces enquêtes-là, c'est plutôt dans le sens du respect de l'orthographe, de son maintien, de la garder, des valeurs, de tout le bénéfice qu'on a à avoir une belle orthographe comme ça. Mais quand même, on voit, je pense que c'est important de pouvoir le voir, ça dépend un peu des enquêtes qu'on mène et comment on les mène. D'abord, on voit poindre, même dans ce genre d'enquête, où on est sur un questionnaire, bonjour, que pensez-vous, quels sont les trois mots, à des enseignants qu'on a choisi parce qu'ils étaient enseignants. Ils savent qu'ils ont interrogé parce qu'ils sont enseignants. Qu'ils soient enseignants de français en France, au Québec, ou qu'ils soient enseignants de français à l'étranger, au Maroc, ou il y avait le Maghreb dedans. Bon, voilà. Donc, c'est évidemment, les premiers mots qui viennent sont là. Mais même dans cette population, on peut quand même voir poindre. C'est peut-être poindre, hein, c'est peut-être qu'un début, mais ça veut dire qu'on s'y autorise. Des choses comme arbitraire, illogique, irrégulier. Des choses comme ennui, barbant, pour un enseignant, c'est peut-être un peu, même s'ils ne sont pas nombreux, mais c'est quand même là. Des choses comme inutile, élitiste ou archaïque, hein, je les ai mis en rouge, des choses qui laissent poindre que c'est pas non plus... Ça existe aussi, voilà. On voit aussi poindre une souplesse que ne montrent pas ces grandes enquêtes majoritaires, hein, qui s'appuient sur la voix de la majorité. Des tolérances dans les évaluations par les enseignants eux-mêmes. Quand on fait des travaux sur les copies d'élèves et ce qui est corrigé, ce qui n'est pas corrigé, parce qu'en fait, ils ne corrigent pas tout, ils ne le savent pas. Eux-mêmes diraient non, 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 moi je corrige tout. Mais en fait, ils ne le savent pas. Quand on regarde mon paquet de copies qu'on m'a donné en maîtrise, hein, c'était ça. C'était aller regarder ce qu'ils avaient corrigé et ce qu'ils n'avaient pas corrigé. Pas parce qu'ils ont décidé de ne pas le corriger, mais parce qu'ils ne le voient pas. Et ça, c'est intéressant de regarder ce qu'ils ne voient pas dans une copie, ce qu'ils voient, ce qu'ils ne peuvent pas rater, et ce qu'ils ne voient pas. Parce que c'est là aussi qu'on voit le rapport à l'orthographe qui évolue. Donc il y a quand même un certain nombre de fautes qui ne sont pas vues, qui ne sont pas corrigées, qui ne sont pas vues. Donc on a beau te dire, oh, non, non, moi, je ne laisse rien passer. En fait, ce n'est pas vrai. Personne ne laisse rien passer, ne corrige tout, personne ne voit tout. Et donc, et c'est intéressant d'aller regarder ce que l'on ne voit pas. Parce que collectivement, ça fait sens aussi. Dans une copie manuscrite, ce qu'on ne voit pas, c'est les accents. On ne va pas regarder s'il est bien en haut, bien en bas. Les accents qui ne sont pas porteurs de signification forte. Par exemple, l'accent circonflexe, celui-là, on le voit. Parce que le théâtre, alors là, celui-là, on le voit. Même si c'est parfois un accent plat. Hein. Mais on voit, il faut qu'il y ait quelque chose dessus. Celui-là, s'il n'y a rien sur le théâtre, on le voit. Par contre, si dans un mot comme, je sais pas, élève peut-être, il est mis à côté, c'est un point, où ça se voit beaucoup moins. Ce n'est pas forcément corrigé. Donc, il y a comme ça, c'est intéressant d'aller regarder qu'il y a des souplesses, finalement, dans notre façon de la recevoir, cette variation. On voit aussi des souplesses dans le rapport à l'orthographe à maîtriser, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, à maîtriser de façon certaine. On demande à nos étudiants de savoir utiliser les correcteurs orthographiques. On ne les met plus dans des situations où alors on fait dicter, interdit au téléphone portable, au correcteur orthographique. Donc, on leur dit maintenant, avec, on ne vous demande pas de le connaître, mais on vous demande de savoir utiliser le correcteur orthographique pour qu'à la fin, il n'y en ait plus. Donc, sachez l'utiliser. On ne demande plus une maîtrise absolue comme on pouvait le faire dans les dictées du... Voilà, jusque dans les années 50. Maintenant, on demande de savoir utiliser le correct... Donc, on revient à quelque chose de plus souple que ça a pu, de ce que ça a pu être. Et les dictées de sélection, il y en a encore dans certaines professions, mais je pense qu'elles sont de moins en moins nombreuses du fait de l'utilisation des traitements de texte. Avant, il y avait... Je ne sais pas si elles sont toujours là, les dictées de sélection pour devenir policier et tout ça. Il y en avait. Je ne suis pas sûre qu'elles soient... Il faudrait regarder si elles sont toujours là. Et puis, dans certains espaces, on a des enseignants qui revendiquent clairement. Il y a eu, c'est aussi des coups de force médiatiques, des collectifs d'enseignants en Belgique. Alors en France, peu pour l'instant. Mais en Belgique ou au Québec, ils disent à partir de maintenant, nous, enseignants, annonçons que nous ne corrigerons plus les erreurs sur les accords du participe passé avec COD antéposé. Nous appliquerons pour tous nos élèves, à partir de maintenant, et dans nos leçons, et dans nos corrections, le fait qu'avec l'auxiliaire avoir, ça ne s'accorde pas, et c'est tout. Ça s'accorde avec l'auxiliaire être, et ça s'accorde. Donc il y a comme ça des mouvements qui montrent un peu de résistance. Et puis, ça dépend aussi comment on pose la question aux enquêtés. Je m'en suis rendu compte quand on a fait... des post-enquêtes dans le cadre d'une enquête INSEE. On a fait des post-enquêtes, on voulait aller revenir vers les personnes qui avaient été enquêtées par l'INSEE et on voulait leur reposer des questions sur l'orthographe. Et on devait passer, parce que c'était dans le cadre de l'INSEE, par des enquêteurs INSEE. Alors nous, moi, je me dis, mince, j'aurais voulu faire mon enquête moi-même, aller chercher mes données moi-même, mais je n'ai pas le droit, l'INSEE a imposé qu'on passe par des enquêteurs INSEE. Alors c'est des vacataires recrutés, mais ils sont formés, ils sont dans un format... Donc, ils sont habitués à l'enquête, c'est des professionnels de l'enquête INSEE. Et donc, ils posent des questions sur l'orthographe, comme ils posent des questions sur l'utilisation de la machine à laver, sur le nombre de fruits et légumes qu'ils mangent par jour, sur leur déplacement. Ils posent des questions de façon presque mécanique. Et on n'a plus du tout ce côté « bonjour, vous êtes enseignante de français, et je suis linguiste et je voudrais savoir votre rapport à l'orthographe ». Ça, c'est sûr, ça suscite plutôt le premier mouvement, c'est de dire « ah non, c'est très très important ». Donc là, on était pris dans une enquête qui était un peu faite de façon mécanique, qui pour moi, au début, j'étais là « mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'un truc pareil ?» C'est pas comme ça qu'on fait des enquêtes en sociolinguistique, c'est pas assez interactif, les gens vont pas... En gros, on écoute à peine leurs réponses, hein. C'est juste pour coder. Mais du coup, ça fait sortir des choses qui, sans doute, ne sortiraient pas si c'était moi qui avais posé la question dans mon enquête. Et ça fait sortir des phrases du type « Oh ben moi, je l'ai appris à l'école, alors ben oui, les erreurs, ça me gêne. » Mais franchement, les jeunes, ils ont raison. Donc, des gens qui peuvent dire ça, qui s'autorisent à dire ça, il ne se serait sans doute pas autorisé à le dire devant moi, mais ça sort dans ce type d'enquête. Ce n'est pas forcément massif, mais ça laisse penser que même chez le commun des mortels, on peut avoir ce genre de jugement. Ou alors, ah bah alors moi, je suis ce qu'il y a de pire que de ce qui existe, alors je ne vais sûrement pas juger celui des autres. Donc, c'est aussi assumer un rapport à l'orthographe qui est plus... Alors, c'est des débuts. Je ne dis pas que ça suffira, mais c'est des débuts. Alors oui, ça, l'orthographe, vous le savez, c'est un objet très médiatique, ce qu'on appelle un marronnier. Il ressort régulièrement. Je pense que deux, trois fois par an, on a au moins un petit buzz autour de l'orthographe. Ça correspond peut-être à des creux de vagues médiatiques. Il dure un temps limité, il ne dure jamais très longtemps, puis il disparaît. Et quand on les regarde, on n'a pas vraiment l'impression qu'on évolue beaucoup dans les discussions dans les débats que ça soulève. C'est un serpent de mer, pour certains c'est un écran de fumée, c'est assez instrumentalisé d'un point de vue politique aussi, ça flatte l'identité nationale souvent, c'est une façon de dire notre génie français, on a toujours l'occasion de rappeler notre génie français autour de notre orthographe, de notre préférence nationale par rapport à l'anglicisation, on a toujours ces choses-là qui ressurgissent. Un rappel à l'ordre en éducation, ça aussi, le rappel à l'autorité avec l'orthographe. Ah, une bonne dictée tous les jours pour les élèves. Ça, c'est le respect de... Voilà, donc c'est aussi un rapport à l'autorité quand on est dans ces débats-là, du point de vue politique. Donc, rapport identitaire, repli sur l'identité nationale, plus dans ces mouvements-là, et puis rappel à l'ordre en éducation. Donc difficile là-dedans, quand le mobile profond est là, de venir parler de réforme en face. Sinon, on se fait soupçonner d'être contre l'identité nationale, contre le génie français, contre l'autorité, pour la délinquance. Donc, dès qu'on arrive dans ces moments-là, avec des opinions plutôt pour une réforme. Donc, on a une surreprésentation dans les médias. On a vraiment des effets buzz qui sont assez stériles sur le fond. On donne la parole à des personnalités lettrées ne voulant pas forcément dire... qui ont une opinion péremptoire sur la question. On va quand même chercher des opposants. On fait du spectacle souvent, mais on n'avance pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années ? Des enquêtes régulières du ministère ou de linguistes qui montrent que le niveau baisse en orthographe, ce qui n'est pas faux si on regarde les données. Quand on fait passer les mêmes dictées, le nombre d'erreurs au même âge augmente. Avec toujours les mêmes explications, sur lesquelles on peut revenir, mais en tout cas, ça fait surgir le débat, ou une enquête, là, en 2014, qu'est-ce qu'on a ? Un sondage qui montre que 94% des Français reconnaissent faire des erreurs. Alors, c'est 94% qui reconnaissent, mais c'est 100% qui en font, que les choses soient claires. Même les académiciens font des erreurs, parce que ça dépend de ce qu'on appelle... faire des erreurs. Oui, quand on écrit un mail, qu'on est fatigué. Oui, on fait des erreurs. Oui, quand on met un mot sur une table, on peut faire une erreur. Oui, on fait tous des erreurs. Après, si on se relit, ça dépend dans quelle situation on se place. Si on a un dictionnaire, si on écrit des mots qu'on sait écrire, forcément, ça dépend de ce qu'on écrit aussi. Si on fait la dictée de Pivot, c'est plus dur de ne pas faire d'erreur que si on écrit la liste de courses pour le supermarché. Et puis, quand les différents ouvrages ont recommandé, ont intégré les recommandations orthographiques, alors ça commence à moins faire de buzz dès qu'il y en a un qui s'ajoute à la liste. Mais alors, quand le Robert... les programmes scolaires, d'abord, en 2002. Alors, eux, ça n'a pas fait le buzz parce qu'ils l'ont fait discrètement en note de bas de page. Ils ont espéré qu'on ne le voit pas. Et on ne l'a pas trop vu. Les programmes scolaires ont très timidement introduit la recommandation de donner la priorité aux recommandations de 90. En France, ça a été en note de bas de page et on a essayé de le faire discrètement pour justement pouvoir le faire sans que ça suscite la polémique, sinon il aurait fallu l'enlever. En Belgique, en Suisse, au Québec, eux, ils n'ont pas attendu, ils ont fait des fascicules qu'ils ont distribués à tous les enseignants dès la réforme, dès la recommandation publiée. Nous, on a fait un fascicule et on l'a diffusé, on assure notre mission, ce qu'on n'a pas fait en France. En 2009, quand même, 1990, il a fallu attendre 19 ans. Pour que le Robert intègre les recommandations orthographiques dans son dictionnaire, comme une recommandation, c'est-à-dire des variantes. On met les deux, oignon et oignon. On garde les deux orthographes. Il y a eu des titres dans la presse du type « Le Robert préfère l'imbécilité », puisque « imbécilité » est un des termes qui a été dont on a proposé une recommandation, un 2L passant un L. Et les manuels scolaires en 2016, là encore, ça a fait couler beaucoup d'encre, pourtant en 2016, mais bon. Et même l'Académie française, dans ces débats-là, disait non, nous, pas du tout, c'est pas nous. Ce n'est pas nous, on n'a jamais voté les recommandations, alors que c'est passé par décret et ils ont voté. Là, quand même, peut-être dernière étape, on va dire que ça pourrait éteindre un petit peu le feu, le dernier volume de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie est paru il y a 15 jours, 10 jours, et les recommandations sont dedans, et on n'a pas encore entendu le buzz qui disait « ça y est, l'Académie française a fini par mettre ses recommandations dans le dictionnaire ». Et puis, on est aussi dans le débat médiatique. Les hommes politiques ou les femmes politiques, les personnalités médiatiques ont souvent quelque chose à dire. Blanquer, en 2017, il recommande la dictée quotidienne. Donc là, c'est le rapport à l'autorité. Et Brigitte Macron, en 2018, conseille d'écrire tous les soirs un petit journal pour soigner son orthographe. Donc voilà, on a quand même des gens qui ont des avis et qui les donnent sur la question de l'orthographe. Plus timidement, on a quand même de temps en temps des réformateurs qui arrivent à poindre dans le débat, à faire surgir des débats plus facilement en Belgique, qui viennent beaucoup de Belgique ces dernières années. sous l'effet, alors les francophones de Belgique, en Suisse et au Québec, mais les Belges nous ont bien aidés ces derniers temps. Quelques exemples récents. 2010, un cercle de réflexion suggère de remplacer le X du pluriel par un S. C'est quelque chose qui coule depuis plus d'un siècle. Hein, depuis le 19e siècle, on suggère de remplacer les X par les S. Supprimer des consonnes doubles, c'est pareil, donc on essaye. Le Conseil international de la langue française suggère, en 2014, de modifier la règle d'accord du participe passé. Ça, c'est en Belgique. Donc ça a aussi fait un peu de bruit. L'initiative est reprise encore en 2018. En 2021, l'Association québécoise des professeurs de français se prononce en Assemblée générale en faveur de la réforme de l'accord du participe passé. Et puis, il y a des spectacles. Il y a les spectacles de Arnaud Heut et Jérôme Piron, je ne sais pas si vous le connaissez, qui ont fait bouger un peu des choses aussi, hein, qui sont très drôles. Il y a une vidéo TED d'eux que vous pouvez voir et qui essaye de faire bouger un peu les choses. Et en 2024, juin 2024, le Conseil scientifique de l'éducation nationale reprend, je crois que je l'ai juste après, et reprend, voilà, donc c'est tout récent, la préconisation de modifier l'accord du participe passé, encore une fois, hein, avec une règle qui maintenant commence on ne discute plus si réforme y avait, quelle serait cette réforme. Ce serait avec auxiliaire être, on accorde, avec auxiliaire avoir, on n'accorde pas, et puis c'est tout. Qui déclare, hein, ces deux choix libéreraient le temps passé du temps de classe. On recommande l'orthographe rectifiée de 90, qui n'est pas encore appliquée dans tous les manuels et pas par tous les enseignants. Et on suggère de réfléchir, de s'atteler à une nouvelle réforme sur les consonnes doubles et les pluriels en X. C'est en gros, ces dernières années, on essaye de s'aligner sur les objectifs qu'on tient, parce que si on tient toute la réforme en même temps, on n'y arrivera pas. On a compris qu'il allait falloir faire des petits sauts. Et donc, on tient sur la réforme de l'accord du participe passé, puis on met en perspective derrière les pluriels en X et les doubles consonnes. Donc, 34 ans ont passé depuis 1990, hein. Il serait temps que soit créée une nouvelle commission, ça je prends dans ce rapport, rationaliser l'orthographe du français pour mieux l'enseigner, de juin 2024. Alors, il n'a pas fait de buzz, mais en même temps, en juin 2024, un autre buzz nous occupait, qui n'était peut-être pas prévu, hein, et donc, ce n'est pas celui-là qui a fait le buzz. Donc, le risque, c'est qu'il soit un peu oublié, comme d'autres, et qu'il faille relancer la question. Mais on a un travail de fond, hein, qui est fait. Là, depuis la semaine dernière, là, il y a des linguistes, hein, qui ont publié des tribunes pour réagir à la parution de cette 9e édition du dictionnaire de l'Académie française. Et pourtant, donc, le débat médiatique, c'est à peu près les mêmes points qui sont proposés, qui sont discutés depuis plus de 100 ans. Il n'a pas vraiment changé dans le débat médiatique. On n'a pas vraiment avancé. La situation du rapport à l'écrit a quand même beaucoup changé depuis 100 ans. Si quelque chose a bien changé, ce n'est pas l'orthographe, mais c'est quand même notre usage de l'orthographe, et la place qu'il prend dans notre société. Ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas changé. Alors, le contexte est nouveau. Moi, je ne vais pas revenir, parce que je pense que vous connaissez la scolarisation de masse, qui a fait aussi que l'orthographe servait aussi de distinction sociale. Maintenant, si tout le monde peut, je ne dis pas le fait, hein, maîtriser l'orthographe, il va falloir qu'on trouve autre chose pour reconnaître le bon vin de l'ivraie. La révolution numérique qui fait qu'on écrit beaucoup plus, mais ce qu'on n'avait pas forcément imaginé, hein, on pensait que ça allait rester une pratique confidentielle ou sélective, et puis en fait l'écrit est devenu, et c'est vraiment popularisé en lecture et en écriture. Les jeunes, vous pouvez dire avant ils lisent plus, là on peut dire qu'ils lisent plus de livres, mais on peut plus dire qu'ils lisent plus, parce que Snapchat marche bien, enfin entre autres, pas que Snapchat, hein. Donc c'est ce contexte, il laisse quand même penser que l'orthographe, enfin l'écrit et donc l'orthographe a pris une place nouvelle. C'est vrai qu'on peut dire à la fois que le niveau baisse au niveau de la dictée scolaire, mais la pratique de l'orthographe a augmenté. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Et la non-maîtrise de l'orthographe est plus coûteuse, enfin, a plus d'effets qu'elle ne l'avait il y a 100 ans. Les illettrés aujourd'hui sont privés d'un accès au droit, d'un accès à la culture, d'un accès à l'administration. ce qui n'était pas le cas forcément avant. Donc on a aussi un changement, un enjeu de démocratie derrière, derrière la maîtrise. Alors je parle illettrisme et orthographe, c'est pas la même chose, hein, d'accord, mais on a quand même dans ces questions d'écrit un grand changement, et l'orthographe en fait partie. Au passage, alors oui, ça concerne à la fois les pratiques d'écriture donc, et de lecture. C'est juste pour rappeler que quand on parle orthographe, souvent on se met dans la position de celui qui écrit, mais l'orthographe est surtout motivée par la lecture de ce qu'on a à écrire. C'est pour celui qui lit qu'on met l'orthographe, parce que c'est plus facile de lire un texte avec l'orthographe. C'est pas pour écrire pour soi, si on écrit que pour soi, on s'en fiche de l'orthographe. Et la preuve, c'est que quand on voit un mot comme ça, hein, qui est le premier mot du roman « Aux assises dans le métro », on a du mal à lire. Donc l'orthographe a quand même une fonction, c'est pas qu'un apparat, ça a quand même une fonction pour la lecture. C'est aussi une piste d'aller choisir une orthographe qui nous permette de lire et de nous comprendre, mais pas forcément voilà, plutôt orienté vers la lecture. Et puis, quand même, ce qui change pas, enfin, dans notre contexte nouveau, il y a des choses qui ont changé, et puis il y a des choses qui se maintiennent ou qui se transforment. On garde toujours un rapport très particulier à l'orthographe en France. Je me suis amusée à regarder les dernières dictées publiques organisées en France. Parce que on se dit, enfin, je veux dire, un championnat de foot, tournoi de foot, ok, mais une dictée publique. Eh ben, j'ai regardé depuis le 19 octobre dernier. Donc, on n'était pas non plus... je parle il y a un mois. C'est-à-dire, j'ai dit, on va dire pendant un mois. Et j'ai fait ça la semaine dernière. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont greffés. J'ai cherché juste par une recherche Google. Eh ben, j'ai quand même trouvé tout ça dicté public, hein, depuis un mois. Organisé en France. J'ai fait que en France. Donc, j'en ai trouvé... c'est peut-être la saison. Je me suis demandé, peut-être c'est la saison. Faudra qu'on réessaye peut-être... à Pâques, c'est peut-être plus la saison des dictées publiques, mais là, quand même, j'étais quand même surprise moi-même. Hein, j'en ai trouvé 9 organisées en France. Alors, parfois, très confidentielles, hein, dans une médiathèque, mais parfois, c'est le championnat, avec le championnat de Belfort, par exemple, et puis il y avait le championnat d'Aznay aussi. Voilà, donc j'avais mis comme mot-clé dictée publique, puis je sais plus quoi, voilà, donc j'avais mis quelque... Ah oui, j'avais mis championnat d'orthographe, dictée géante et dictée publique. Donc quand même, on a encore un rapport à l'orthographe, c'est le côté défi et challenge, hein, qu'on retrouve ici, qui fait que c'est encore assez présent. Donc, je reviens sur mon paradoxe de départ, un objet pour lequel on a tous quelque chose à dire, et qui intéresse relativement peu les linguistes, donc je vais quand même présenter un peu ce qu'en disent les linguistes rapidement, les recherches dont il fait l'objet chez les linguistes, parce qu'une fois qu'on l'a traité comme objet social, il faut se demander en quoi c'est un objet linguistique. Alors je vais aller vite parce que je pense que d'abord je n'ai pas beaucoup plus de temps, et puis c'est un balayage rapide. Il y a tout un ensemble de travaux qui est assez important pour comprendre et pour raisonner sur l'orthographe, qui est sur l'histoire de l'orthographe. Ce qui fait débat depuis le début, au moment de choisir notre orthographe, mais ce qui fait débat dans toutes les orthographes du monde, c'est la contradiction entre une orthographe fidèle à la parole et une orthographe qui fasse sens pour la vue. Le fait que les mots ont une figure, hein, c'est dit comme ça au début, et le fait que l'orthographe doit peindre la voix. C'est les deux oppositions qui sont évidemment contradictoires, et de comment ménager à la fois une orthographe qui soit fidèle et proche au plus simple d'une transcription, on va dire, mais qui donne à chaque mot une figure qui permet de le reconnaître facilement en lecture. Et des consensus, hein, sur cet équilibre à trouver, des consensus aussi sur quelques principes, en particulier sur le principe de différenciation de l'orthographe sur des monosyllabiques, sur les homophones courants, pas sur les homophones non courants. Mais ça, c'est quelque chose qui fait consensus et sur lequel on ne revient pas. C'est utile dès le début, que en particulier des monosyllabiques, hein, mais parce que c'est là où il y en a le plus d'homophones, d'avoir des formes graphiques qui les distinguent pour accéder plus vite au sens. Donc ça, c'est aussi des consensus dans ces principes de l'orthographe. Après, les travaux sur l'histoire nous ont montré à quel point il y avait de l'arbitraire dans les choix des formes qui ont été pris à un moment ou à un autre. Mais aussi à quel point, l'arbitraire, parce que c'était à ce moment-là, un tel a fait tel choix, alors qu'à côté, ils en ont fait un autre, Donc on a des choses qui ne sont pas rationnelles. Il y a eu des tendances à rationaliser, mais qu'on a oublié un bout. Des tendances à rationaliser. Donc tout ça existe. Donc c'est pas, il ne faut pas chercher une logique profonde. Il y a des logiques, mais elles ont servi, elles ont jamais été appliquées à 100%. Des tendances, des modes qui ont pu faire, des bricolages beaucoup, parce que bon, on avait que le matériau latin, donc on a pris ce qu'on avait, qui n'était pas très bien adapté, il fallait bien bricoler. De la variation aussi, qu'il y a toujours eu, graphique et orale. Des influences de technologie, des effets politiques, des choix politiques, à la fois l'orthographe du roi, le roi a décidé de l'orthographe contre les imprimeurs pour essayer de faire taire leur influence, parce qu'il fallait que les imprimeurs ne prennent pas trop d'indépendance par rapport au roi, c'est le contrôle de l'information quand même derrière. Donc il y avait déjà cette question-là, les monopoles, les groupes médiatiques qui pouvaient être les imprimeurs étaient déjà un peu suspectés de dissidence par rapport au pouvoir. Des éléments politiques, on en trouve jusqu'à récemment. Hein, Jacques Chirac, au moment des recommandations de 90, avait dit haut et fort « J'ai sauvé quelques mots, quelques accents », comme si c'était l'homme providentiel de sa main divine de président qui nous avait sauvé des accents. Donc c'est toujours une dimension politique, évidemment. Cette histoire d'orthographe nous apprend aussi que les mêmes graphies ont pu prendre des valeurs différentes selon les époques parce que les sociétés ont réinterprété des graphies. Il y a un très beau texte, un très beau livre de Bernard Cerclini sur l'accent circonflexe, qui porte que sur l'accent circonflexe, qui montre qu'au départ c'était un bricolage qui était là pour adoucir la suppression en fait c'est la réforme de 1740 de Voltaire qui dit on va supprimer, c'est la réforme qui a réformé le plus de mots depuis le début, 30% des graphies corrigées. Imaginez aujourd'hui un Voltaire qui dit on va corriger 30% des graphies de notre orthographe. Il n'est pas là, on n'en est pas là, on est loin de Voltaire. Il a corrigé 30% et encore, ils ont dit 30% pour commencer, on finira dans la prochaine. Donc ce n'était pas 30% et c'est fini, c'est 30% pour commencer, on s'en garde pour la prochaine parce qu'il voulait faire paraître l'édition rapidement. Donc, il dit, on va quand même supprimer les lettres muettes internes. Je dis, on garde les lettres muettes finales pour l'instant. Vous voyez, on s'en garde pour plus tard. On va commencer par enlever les lettres muettes internes, fenestre, qui se disait fenêtre. On va la supprimer. Mais on avait des gens un petit peu sensibles qui disaient, oui, mais dans fenêtre, on a un allongement du haie. Donc, il faudrait quand même marquer cet allongement. C'est pas fenêtre, il y a un allongement du haie. Bon, alors ils ont concédé cet accent circonflexe. En se disant, bon, une fois qu'on aura enlevé le S, on va leur mettre l'accent circonflexe, ce sera rapide à enlever celui-là. Il restera, on aura fait l'essentiel du chemin, et cet accent, il tombera tout seul quand le E, enfin l'allongement tombera, puisqu'on le voit en train de tomber, ce sera facile. Et puis, il a été réinterprété. Aujourd'hui, on a complètement oublié cette histoire-là, et l'accent circonflexe est devenu, oh, mais ça fait le français. Là, c'est dit, l'accent circonflexe, c'est notre identité de langue écrite. Les apprenants étrangers, je leur parle et je leur dis, vous savez, il y a des accents circonflexes qu'on peut enlever. Ah non, c'est pas possible. Nous, on a appris le français avec sa plus-value. Si on peut plus mettre... Non, laissez-nous nos accents circonflexes. C'est ce qui fait le chic de cette orthographe-là. Donc là aussi, sur les recommandations de 90, il y a des recommandations d'enlever certains accents circonflexes, pas la fenêtre, je vous rassure. Certains accents circonflexes, mais il y a une certaine résistance parce qu'il a pris une valeur qui n'est pas du tout phonographique, qui relève de la figure du mot, de son image, mais aussi la figure de l'orthographe du français. Et je me rappelle, hein, mon fils en sixième, quand il faisait sa dictée, il devait écrire dîner, et sa maîtresse lui faisait écrire avec un accent circonflexe, et moi, très fière, je lui dis, tu sais, si tu ne le mets pas, elle ne peut pas te corriger, elle ne peut pas te mettre faux. Et là, il me dit, oui, mais moi, j'aime bien. Donc, il était un peu embêté. Donc, il l'a mis. J'aurais bien voulu qu'il soit comme moi, en disant non, je renonce à l'accent circonflexe puisque j'en ai le droit. Mais non, lui, il trouvait que c'était plus chic un dîner avec un accent circonflexe. C'est vrai que c'est plus joli. On dîne, on mange mieux avec un accent circonflexe. Donc, tout ça fait que les valeurs de ces graphies ont changé. Donc, il faut observer l'évolution des graphies, mais l'évolution du sens et des valeurs qu'on leur donne. Ce qui me semble vraiment fondamental aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans cette histoire de l'orthographe ? Du conservatisme, mais pas que. parce que même la première édition, hein, si on reprend les 8 éditions, la 9e, on pourrait écrire 2024, la 9e, hein, les 8 éditions, même la première édition qui se disait dans ses discours très conservatrices, hein, on l'a vu de tout à l'heure, c'est leur principe, c'est on s'appuie sur la plus vieille des orthographes parce que les savants savaient mieux que nous. C'est le principe de base. Les savants, les anciens savaient mieux que nous. Les anciens savants savaient mieux que nous, que les savants d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment du conservatisme. Mais même dans cette première édition, on a 76% des graphies à l'ancienne, mais ça veut dire qu'on a aussi 24% de graphies modernes. Ce qui n'est pas non plus ridicule. Aujourd'hui, si on faisait une réforme même avec 24% de modernisation, si on l'entendait comme ça, ce serait assez révolutionnaire. Donc voilà un peu la suite des réformes, avec quelques périodes où on a avancé, mais en gros, on n'avance plus beaucoup depuis 1762. On a quand même un peu avancé, parce qu'il y en a qui sont passés discrètement. Par exemple, alors 1798, ils l'ont fait, ils ont supprimé l'S longue. Vous savez, il y en avait avant, on avait une espèce de S très long comme ça. Et pourtant, cette édition a été gommée, hein, par les successeurs en disant que c'était l'édition révolutionnaire, qu'ils n'en tiendraient pas compte, mais ils ont quand même tenu compte et personne n'est venu protester parce qu'ils avaient gardé la suppression de l'S longue. Parfois, des changements... donc, 1835, on entérine la suppression de cette S longue et on a réussi quand même à changer le oie en E, là, ce qui pour nous paraît comme une espèce de langue moyenâgeuse quand on voit écrire avec quoi, et pourtant ça date que de 1835. Ça a fait un peu couler d'encre, hein. Il y en a qui ont résisté en disant jamais, moi de mon vivant, jamais j'écrirai les haies. La revue des Deux Mondes l'a gardé jusqu'en 1920, le oie quand même. Donc il y en a qui ont résisté un peu longtemps, mais ça a fini par passer. Et puis beaucoup de réformes depuis le 19e siècle, de demandes de réformes avec la. Souvent sous l'impulsion de l'éducation nationale, qui maintenant commence à demander à pouvoir avoir vos chapitres, vu le temps qu'ils y passent et les moyens qu'ils y accordent, mais qui surgissent, hein, depuis quand même un moment, avec toujours ces mêmes points qu'on a vus, qui sont motivés par ça. On a eu aussi d'autres arguments autour des rectifications, sur des arguments économiques. C'était Rocard, hein, qui disait que ça coûtait plus cher de traduire en français à cause de son orthographe. Parce que les logiciels et la mise de l'orthographe est plus lourde, donc ça coûte plus cher de traduire vers le français du fait de son orthographe. Des arguments économiques et des arguments de rayonnement culturel, c'était un obstacle pour l'apprentissage du français, donc ça pouvait nuire à sa diffusion dans le monde, et que peut-être si on l'a simplifié, on aurait plus d'adeptes et on arriverait à garder une francophonie plus. Donc ce genre de choses ont surgi plus au XXe siècle que au 19e. Bon, je sens que ça suffise. Qu'est-ce qu'on voit sur les travaux sur l'orthographe aussi? Les autres travaux sont plutôt depuis les années 60-70 sur la notion d'orthographe comme système, pour essayer de voir quels sont les systèmes à l'œuvre dans l'orthographe du français, des autres orthographes du monde. Donc la correspondance avec l'oral et la dimension de l'autonomie d'écrit, la comparaison des orthographes pour les caractériser. Donc on est un peu... considéré comme, quand même, au regard du palmarès, on est quand même l'orthographe la plus difficile du monde. On a à peu près la position de leader jusqu'ici. Avec d'autres orthographes, hein, nous, ce qu'on a, c'est qu'on cumule une opacité, c'est-à-dire la correspondance orale écrite, le nombre de signes pour le même son et le nombre de sons pour le même signe. Donc cette correspondance, on est pas mal en opacité, même si les Anglais sont plus opaques que nous. Mais eux, ils n'ont pas ce qu'on a en plus de notre opacité, c'est notre morphographie qui est particulièrement lourde et complexe, hein, sur les verbes, sur les pluriels, sur les accords. Donc là, c'est en ça qu'on a une orthographe particulièrement difficile. On est sans doute ceux qui consacrent le plus de temps. Là aussi, il y avait des arguments économiques, hein, sur le temps scolaire, le temps passé à l'orthographe. Si on cherche à faire des économies, ben on voit là, hein, par exemple... De réduire le temps consacré à l'orthographe à l'école pourrait dégager du temps scolaire pour autre chose. Et puis, dans ces travaux sur l'orthographe comme système, on voit aussi les questions de fonctionnalité, les questions de lisibilité qui surgissent aussi. de complexité, les questions de fréquence. On ne peut pas penser les orthographes de la même façon pour un mot courant. La réforme d'une orthographe de pharmacie, par exemple, qui est relativement bien connue, alors qu'il est complexe, mais qui est plutôt mieux connu que d'autres mots qui ne sont pas forcément plus qu'on voit peu écrit. Donc il y a aussi dans la fréquence, il y a la fréquentation de ces mots à l'écrit qui compte. Mais c'est ça en fait, c'est quand même ces travaux sur l'orthographe comme système qui ont motivé les recommandations de 90. Et peut-être si on peut garder un enseignement, c'est que c'est une partie du raisonnement qu'on doit avoir. On doit effectivement chercher dans notre système là où il y a des choses à rationaliser, mais ça ne peut pas être le seul point, puisqu'on a vu hein, l'accent circonflexe qui rationnellement n'a pas d'intérêt fonctionnel fort, et ben il y a un attachement. On ne peut pas se contenter de cette approche-là de l'orthographe. On doit aussi prendre en compte le rapport à l'orthographe. Dans les travaux récents, il y a tous les travaux sur la didactique de l'orthographe, l'analyse des pratiques d'élèves, mais surtout l'analyse des raisonnements des élèves. C'est ça qui a renouvelé un peu la réflexion sur les orthographes, qui nous amène à revisiter nos règles à partir de la façon avec laquelle elles sont reçues et par les élèves, avec des choses qui nous invitent aussi à revisiter même le rapport à la langue elle-même. Quand on a été formaté par notre apprentissage, nous, de lettrés, on se rend compte que, est-ce qu'on est bien sûr de ce que c'est que le pluriel en français? Nous, on a tendance à dire le pluriel, c'est le déterminant qui le... Enfin, on ne sait pas d'où, d'ailleurs, on ne sait jamais si c'est le déterminant ou si c'est le nom qu'il donne. Mais quand les enfants reviennent avec des interprétations, d'autres interprétations du pluriel, on se rend compte que notre langue est peut-être plus riche que ce que nos règles d'orthographe laissent entendre. Je pense par exemple quand un enfant écrit « les feuilles commencent à tomber » et « commencent eux » et on lui demande « pourquoi commencent eux ?» Il dit « j'ai pas mis UNT parce que c'est que le début ». Donc au début, ils n'ont pas encore beaucoup. Ou alors « deux billes, trois billes ». Pourquoi tu n'as mis pas de S à deux billes ? Lui, il en a plus que moi. Le pluriel, il est relatif. Donc, ça nous invite aussi à réfléchir tout ce qu'il peut y avoir derrière la notion de pluriel quand on va écouter ces pratiques autour de l'orthographe. Donc, ça invite à réfléchir au-delà de l'orthographe, hein, au rapport à la langue. Donc, sur la didactique de l'orthographe, hein, il y avait aussi des questions sur les postures des enseignants, des questions beaucoup sur le métalangage, sur les procédures, sur les outils qu'on a pour enseigner l'orthographe, sur les processus d'encodage et de décodage, donc lecture-écriture. Et puis les stratégies qui sont à l'œuvre dans les erreurs, parce que l'analyse des erreurs montre que les erreurs, elles ne sont pas faites, ce n'est pas n'importe quoi. C'est des raisonnements, comme ce que je disais tout à l'heure. Et dans l'analyse des erreurs, là, on trouve vraiment des travaux très intéressants sur l'orthographe et sur la langue en général. Moi, je pense qu'il faut aussi revenir aux pratiques, essayer d'oublier un peu la norme parfois, parler vraiment de variations orthographiques sans chercher à la rapporter toujours à l'écart. Il faut sortir des corpus scolaires et du rapport scolaire à la variation graphique. Il faut sortir de la tentation de la correction, d'oublier un peu la forme attendue et du jugement pour aller s'efforcer. Alors parfois, on a des corpus comme ça qui nous y invitent. Hein, le corpus sur des illettrés, c'est un vrai dépaysement mental d'essayer de se dire qu'est-ce qui a pu amener à ça ? Quel est le raisonnement qui a pu amener à ça? Par exemple, c'est dans ce genre de corpus, on voit l'importance de la première lettre d'un mot, ce qui va être moins oublié. On peut aussi voir l'importance des consonnes dans un mot. On peut se retrouver dans pharmacie avec le P, mais pas le H. Donc on se dit, c'est pas possible. Mais donc ça donne quand même une idée des principes à l'œuvre quand on se met à écrire. Et donc ce dépaysement mental, on a aussi pas mal de corpus qui ont surgi là, avec les corpus 14 des poilus de la guerre de 14-18 au moment du centenaire, où on a vu des travaux sur ces peu lettrés, qui montrent là aussi ce que c'est que notre langue par le point de vue des peu lettrés. Et on voit toute la fertilité de la variation, en fait, dans ce que ça dit des locuteurs par rapport à la langue. Ça invite à travailler l'orthographe de ce point de vue-là aussi, enfin la variation graphique du point de vue de sa fertilité. Et on passe à côté de beaucoup de choses en se cantonnant aux écrits normés. Enfin, aux écrits normés. Il y a aussi un potentiel sémantique et poétique, il y a une réinterprétation dans la variation orthographique. Alors, on le voit, par exemple, il y a un parfum qui s'appelle Poème, non? Et ils lui ont mis un accent, c'est quoi, un accent circonflexe? Comment ils ont fait? Comment, je sais plus comment. Ils ont, donc, il y a des jeux comme ça sur des marques. Mais on le voit aussi, un enfant en dictée, je me rappelle, en primaire, dans la dictée, il y avait écrit monotone. Et l'enfant, il ne devait pas connaître monotone. Hein, c'était, et l'enseignant, qui toujours glisse son œil au-dessus des épaules de ses élèves, hein, voit bien qu'il y a un doute sur monotone. Et elle dit, bon, bah, si vous ne savez pas écrire un mot, hein, dans ces cas-là, vous écrivez au plus simple. Hein, au plus simple. Hein. Évidemment, elle les guide. Et ben, dans les résultats, on a monotone. Monotone. Il fallait mettre des mots qu'on connaît et puis qui. Dans une dictée, dire à un enfant, écrivez au plus simple. Ils savent que ce n'est pas vrai. Une dictée, c'est sûrement pas. S'il y a bien un truc qu'on ne nous demande pas de faire, c'est de faire de la transcription phonographique dans une dictée. Je suis sûre que j'ai faux. Donc je vais. Mais elle a beau me dire, écrivez au plus simple, ce n'est pas possible. Ils ont bien compris une chose, c'est que là, dans la dictée, il ne faut pas faire au plus simple. Donc il y avait. Donc c'est aussi des réinterprétations. Donc voilà, je pense qu'on a encore du travail à faire et on a un grand potentiel de comprendre notre orthographe et de ce qu'elle dit à partir de la variation graphique. Réflexion sur une réforme. Alors, établir des progressions, ça c'est ce que nous disent ceux qui préconisent des réformes pour l'enseignement, pour essayer d'ordonner, de ne pas donner toute la norme à faire, mais déjà établir une progression avec donc des souplesses, des moments intermédiaires. S'appuyer sur l'étude des recommandations 90 qui sont effectivement en œuvre. Il y en a qu'on fait sans savoir que c'était une recommandation 90. On ne sait même pas qu'avant, on ne pouvait pas la faire. Donc, on l'a fait sans problème. Les enseignants, par exemple, sans forcément savoir que c'est le cas, ou parfois ils le savent, écrire les numéros, vous saviez, il y avait les tirés, pas les tirés. Là-dessus, ils ont bien pris la règle parce qu'elle est vraiment pratique. Le pluriel des noms composés, c'est plus aléatoire, mais je pense que là, on a un vrai potentiel de simplification qui arrangerait tellement les enseignants de dire c'est un mot composé ou pas mot composé, qu'il soit composé d'un verbe ou de quoi que ce soit, on met pas de S au singulier et on met un S au pluriel. On le prend comme n'importe quel mot. Plutôt que d'aller dire, ah oui, mais un portefeuille, il porte plusieurs feuilles, donc il faut un S. Mais voilà. Voilà, c'était comme ça avant, donc je pense qu'on a encore un potentiel sur cette règle-là à la faire plus facilement adopter parce qu'elle est quand même pratique. Et puis les moins composés, les moins adoptés, les accents circonflexes sont assez peu, enfin sont assez, la recommandation est assez peu utilisée. Il faut savoir en prendre acte aussi, hein. Oignon, bah oignon, je pense qu'on va avoir du mal à perdre ce i de oignon. Et nénuphar. Alors nénuphar, on ne sait pas pourquoi. C'était une erreur en 1935. Nénuphar s'était écrit jusqu'ici avec un F. Et puis il y en a un qui a dû se tromper. Il a dû vouloir bien faire. Tellement il a dû avoir un doute au moment de le faire rentrer dans le dictionnaire. Et il a mis un PH. Donc c'est une coquille, une bourde. Voilà. Et ben aujourd'hui, quand on a voulu réformer le nénuphar, ben on n'y arrive pas. Bon, voilà. Hein, comment la bourde est devenue. La norme, donc le nénuphar avec un F, je ne suis pas sûre qu'il passera facilement. C'est pas la peine de s'épuiser sur ce genre de forme si, y a un attachement. Et puis, peut-être aussi dans les efforts de rationalisation, ce que nous disent l'application de ces recommandations, c'est qu'il y a quand même des limites au phonocentrisme. Il y a un besoin de formes habillées. Alors, cinéma, théâtre, il y a un besoin de ces formes habillées qui correspondent à des réalités. De la valeur sociale, de la valeur linguistique, et je pense qu'il faut en prendre en compte aussi dans cette réforme pour pas aller déshabiller là où les locuteurs y mettent du sens, enfin en tout cas ils sont attachés. Et puis moi je pense aussi qu'il faut donner de la souplesse et donner de la liberté dans ce potentiel poétique et de réinterprétation des formes graphiques. Je pense qu'on devrait jouer davantage et s'autoriser à jouer et à faire des essais et à tenter des variations et à leur donner faire de la publicité de certaines variations qui peuvent être adoptées ensuite par les locuteurs et qui réguleront aussi dans ces choses-là. Voilà, juste pour lancer le débat. Alors, on avait une proposition de réforme d'orthographe par le Collège de pataphysique, qui était forcément drôle, qui était de prendre systématiquement pour chacun des sons du français, l'orthographe la plus rare et la plus exceptionnelle pour le transcrire et de le mettre à chaque fois pour tous les mots. Par exemple, le P s'écrira comme dans obscène. B-S. Non, B, pardon. Dans obscène. Le R s'écrira comme dans logoré, tous les R. Le O s'écrira comme le O, comme dans Capharnaüm. Et donc, ça donne, si j'écris le projet d'orthographe, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc, c'était pour lancer ce que... Et pourquoi pas. Une autre anecdote que j'avais trouvée en 2022, c'est une autrice dans une médiathèque qui parle de son livre qui fait un atelier avec des élèves. Alors, c'est un livre qui s'appelait Magic Charlie. Et les élèves devaient écrire une recette de cuisine magique. C'était l'exercice. Et il y a un groupe d'enfants qui, au lieu d'écrire la recette de cuisine magique, a écrit cette phrase. « Chère Académie française », cette lettre. À partir de l'exercice, ils n'ont pas du tout fait leur recette. « Chère Académie française, je ne trouve pas normal que chauffer s'écrive avec A-U et pas avec O. En plus, il y a deux F. Chauffer, ce serait quand même mieux. C-H-O-F-E-R. Merci de corriger ça dans le dictionnaire parce que c'est votre travail. Cordialement. » Donc, voilà aussi le genre de proposition pour réformer l'orthographe, d'où elle peut venir.